Je m'appelle Antoine Boudinet, j'ai 26 ans, je suis titulaire d'un diplôme d'animation sociale et socioculturelle, un DUT carrière sociale. Ce qu'il faut savoir sur les Gilets jaunes à la base, c'est que j'avais un a priori assez méfiant sur le mouvement, sur son début. C'est-à-dire que je ne savais pas trop qui ils étaient, de quel bord ils pouvaient être. Je ne me sentais pas concerné par leurs revendications sur le prix de l'essence. Notamment leur pratique de faire la queue leu-leu devant des voitures. Enfin, je regardais ça avec un sourire un peu méprisant, ce qui était complètement mon erreur hein, là-dessus. C'est qu'au moment du 1er décembre, avec donc la réaction politique en fait, qu'il y a eu derrière, la réaction médiatique, où je me suis dit « Ok, donc ça, les manifestations Gilets jaunes ne sont pas des manifestations qui laissent indifférentes. Ce sont des manifestations qui ont un réel impact. » Donc moi, ça m'a donné envie de retourner en manifestation. Mais je ne me sentais pas d'y aller directement chez les Gilets jaunes en terrain inconnu. Or, il se trouvait qu'au même moment de cette manifestation, se passait la marche pour le climat, qui débutait juste à côté des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y avait les Gilets jaunes sur la place de la Bourse, et il y avait la marche pour le climat sur le miroir d'eau. Et donc effectivement, avec mon petit frère, par prudence, on a décidé de se joindre plutôt à la marche pour le climat, pour laquelle on était sûr d'adhérer. Mais lorsque les deux cortèges sont partis, ils se sont très vite mélangés, en fait. Du coup, on a très vite marché entre écolo et gilets jaunes. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de gilets jaunes, de me rendre compte que les a priori que je pouvais avoir sur eux étaient complètement infondés, et qu'au contraire, ils pouvaient être très joyeux et très agréables, et pas du tout d'extrême droite comme les médias le laissaient penser. Alors oui, il y avait des drapeaux royalistes, il y en avait un ou deux, mais il m'a semblé que réellement, dans l'ensemble, c'était plutôt des gens qui, au contraire, n'étaient pas politisés, n'étaient pas d'un parti en particulier, et au contraire, se méfiaient de la politique, mais qui ont décidé qu'à un moment, il y en avait marre et qu'il fallait descendre dans la rue pour crier son mécontentement. Ça se passait très très bien, on chantait des chansons, on scandait des slogans, donc une manifestation, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, très, très, très agréable, vraiment un bon moment. Jusqu'à ce qu'on arrive sur la place Péberlan, qui est la place de l'hôtel de ville, où plusieurs camions de CRS s'étaient montés en forteresse devant l'hôtel de ville, soi-disant pour la défendre, et surtout pour nous lancer un maximum de lacrymo et nous envoyer plein de flashballs. Pendant un temps, jusqu'à là récemment, la place Péberlan était devenue pratiquement le rendez-vous d'affrontement de tous les samedis. Mais ça, je n'étais pas au courant à l'époque. Donc déjà, j'étais assez choqué de voir autant de lacrymo. Moi qui n'étais pas préparé et qui n'avais ni masque ni lunettes, il a fallu que des amis à moi m'en prêtent pour que je puisse rester. Les gens sont restés là, en fait, devant le barrage de CRS à crier leur mécontentement, hein, tout simplement. Donc les gens allaient narguer les flics tout en esquivant les LBD. Je pense qu'à ce moment-là, les gens n'ont pas encore conscience de la gravité que peut provoquer un LBD, notamment dans le visage. Et à ce moment-là, il n'y a pas encore toutes les polémiques sur le LBD et sur les grenades explosives. Et avec les copains, on s'était dit qu'on allait lancer des œufs. On avait choisi exprès des œufs de batterie, en fait, pour justement le côté dénonciation du capitalisme à outrance. Donc des œufs réellement de poules qui ont particulièrement souffert, quoi. Donc, et oui, je vois des flashballs voler un peu partout, certains qui se font atteindre sur le corps, donc des blessures assez graves, mais pas de mutilation, quoi. Donc quand on lance le jeu, déjà on n'est pas serein, mais bon, on le fait, et puis bon, l'adrénaline faisant que on n'avait pas trop peur sur le moment. Une fois qu'on a lancé nos œufs, c'était drôle et tout ça, on avait 2 douzaines, mais on s'est dit qu'il y en avait marre de la lacrymo et on s'est éloigné pour aller se mettre dans un bar pour boire un verre. Quand on s'est retrouvé un peu plus au calme, on se rendait compte quand même d'à quel point c'était chaud quand même, ce qu'on avait vécu, toute cette lacrymo, tous ces LBD qui volaient dans tous les sens, ce brouillard qui fait qu'on ne voit rien, on n'a même pas de visuel complet sur les policiers, c'était assez anxiogène, quoi. Mais à ce moment-là, j'ai pas encore été blessé. Et c'est qu'au moment où on décide de retourner là-bas, en fait, pour voir comment ça a évolué. Donc une heure après, la nuit était tombée à ce moment-là. Donc déjà, il y avait un énorme feu de barricade qui avait été fait, donc un feu d'au moins 2 ou 3 mètres, qui du coup avait marqué vraiment la séparation entre les CRS d'un côté et les gilets jaunes de l'autre qui avaient reculé. Moi, assez inconscient du danger, je quitte mon groupe pour m'avancer, aller plus en avant pour voir, partir en éclairant. Malheureusement, je m'avance peut-être un peu trop. J'ai ma part d'erreur hein, dans tout ce qui s'est passé, évidemment. Mais pour moi, la plus grande part d'erreur n'est pas de mon fait. Mais bon, effectivement, je m'avance et je me retrouve pratiquement devant le feu et j'essaie de voir de l'autre côté pour voir s'il y a des gens, est-ce qu'il n'y a que les CRS ou est-ce qu'il y a des gens. Bon. Et à ce moment-là, je vois un objet qui roule à mes pieds. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grenade IF-4 et la grenade lacrymogène classique sont toutes les deux grises et en longueur. C'est-à-dire, elles ressemblent à des tubes gris en plastique, sauf que l'un a une bande rouge, donc ça c'est la grenade lacrymo qui s'ouvre pour laisser sortir plusieurs palets de lacrymo, et la Gli F4, elle, a un bouchon rouge qui, elle explose. Mais ça, à ce moment-là, je ne le sais pas encore. Je crois reconnaître en fait une grenade lacrymogène. Elle n'a pas lâché ses palets de lacrymo en l'air comme elle devrait le faire. Elle est à mes pieds, donc ça veut dire qu'elle va s'ouvrir et que je vais me prendre toute la lacrymo dans la tête. Donc je me baisse pour la ramasser et pour l'envoyer plus loin que moi. J'avais même pas dans l'idée effectivement de le relancer sur les policiers, puisque je n'avais aucun visuel sur les policiers. J'aurais même pas pu. Faut bien comprendre que ça s'est passé en un quart de seconde, hein, réellement. Mais l'urgence dans ma tête, c'est d'éloigner ce danger de moi. Donc je me baisse pour la ramasser. Et ben là, ça a été mon erreur, puisqu'effectivement, au moment où je ramasse cette grenade, elle explose. Sur le moment, je ne me rends pas compte que ma main a explosé. Je me rends compte que je sens un choc au niveau de ma main, un gros choc. Et sur le moment, ma première idée, c'est qu'effectivement, je me suis reçu un LBD dans la main qui m'a éjecté cette grenade. Donc, par réflexe, je cours en arrière, je cours rejoindre les gilets jaunes, en tenant mon bras, en me disant, je constaterai les dégâts une fois à l'abri. Mais c'est en revenant vers les gilets jaunes, en arrivant devant eux et en voyant leur visage terrifié et s'écarter devant moi, pris de panique, que je regarde ma main et que je constate que non seulement elle n'est plus là, mais qu'à la place, il y a une masse informe, dégoulinante de sang, enfin, et de chair exposée. On peut trouver sur Internet une vidéo. On me voit arriver, justement, on me voit sortir du nuage de lacrymo, on voit des gens s'écarter, on me voit arriver. Et à ce moment-là, je hurle. Je hurle à m'en péter la voix, je hurle. Et je hurle pas de douleur. Parce que sur le moment, mon cerveau, en fait, a coupé la douleur. L'adrénaline, et puis même, c'est un réflexe du cerveau qui l'empêche de ressentir une douleur si intense qu'elle provoquerait une crise cardiaque. Donc, sur le moment, j'ai pas mal. Par contre, c'est un cri d'horreur que je pousse. En l'espace d'un quart de seconde, c'est votre vie entière qui bascule. Le monde que vous connaissiez n'est plus le même. Et réellement, c'est comme si le sol se dérobait sous vos pieds, quoi. Je reste là, paralysé, à regarder mon moignon. Et heureusement, un gilet jaune prend son courage à deux mains, hein, sans mauvais jeu de mots, et me prend par les épaules en me disant de courir et m'amène au CRS en leur disant « Faut arrêter, là, il y a un blessé, il faut le prendre en charge. » Donc les CRS me prennent en charge, effectivement. Ils m'assoient contre un arbre, me font un garrot et me disent que les pompiers arrivent. Donc moi, pendant ce temps, je suis en train de prendre conscience de la réalité de la chose. Sur le moment, je me dis que c'est un cauchemar et que je vais me réveiller. Mais en fait, la perte d'un membre, c'est un peu comme la perte d'un proche. Il y a une notion de deuil, en fait. Et à ce moment-là, je suis en phase de déni. Puis les pompiers arrivent et m'attrapent et me mettent sur un brancard et foncent effectivement à l'hôpital. Dans le camion de pompiers, un des pompiers qui me tient la tête pour éviter que je regarde ma main, pendant qu'un autre tient ma main pour éviter que je la secoue dans tous les sens. Et il y en a un troisième qui prend une photo de ma main et qui en profite pour la mettre sur Twitter. Donc cette photo, elle est trouvable, hein, pour ceux qui ont le cœur bien accroché. Hein. On voit effectivement mes os, les os de mes doigts pendre lamentablement au milieu d'un amas de chair dégoulinant. Techniquement, c'était pas très légal, mais je lui en veux pas parce que aujourd'hui, cette photo me sert à dénoncer. Me sert à montrer les conséquences réellement de la GF4. Parce que quand ils voient mon moignon effectivement tout propre, tout cicatrisé, ils ne se rendent pas compte de la violence, de l'horreur effectivement qu'a provoqué cette grenade, quoi, de l'état dans lequel ma main, qui n'a pas été complètement arrachée, qui a juste été réduite en bouillie. Il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus rien, enfin, c'était des os qui pendaient avec des morceaux de muscles qui pendaient lamentablement, quoi. Une véritable horreur. Le camion de pompier arrive à l'hôpital. Là, tout de suite, ce qu'ils font, c'est qu'ils découpent tous mes vêtements. Parce que ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'est que la grenade n'avait pas seulement explosé ma main, elle avait aussi envoyé plein d'éclats dans mes jambes. dont on peut voir les cicatrices encore aujourd'hui. Hein. Alors ça a bien cicatrisé, mais il faut quand même se rendre compte que c'était des trous, enfin des trous de 2 cm de largeur et de 1 ou 2 cm de profondeur, quoi. Enfin, donc des trucs assez conséquents. Donc ils découpent tous mes vêtements et en même temps me mettent un masque sur la tête pour m'endormir. Donc là, je me réveille dans une salle de réveil. Ma main n'a pas encore été amputée, elle a juste été entourée d'un bandage pour que je ne puisse ne pas la voir et éviter de perdre tout mon sang. Le médecin me dit que je vais être amputé et me demande si je souhaite contacter quelqu'un. Je ne sais pas trop pourquoi, mais la première personne que je contacte, c'est mon frère. Très certainement parce que ben, lui est encore sur les lieux, en fait, il m'avait accompagné. Et que ben, du coup, je me suis dit, si moi je perds ma main, je préfère pas qu'il y soit. Donc c'est lui que j'appelle en premier. Au début, il comprend pas bien, hein. Il comprend pas ce qui s'est passé. Enfin, il me demande de répéter plusieurs fois. D'autant que je l'avais appelé 2-3 fois où il avait pas répondu. Donc j'imagine qu'il était en plein milieu de la lacrymo en se disant, il fait chier. C'est lui qui me l'a raconté plus tard, mais quand il a raccroché, il s'est effondré littéralement au milieu de la lacrymo. Il n'avait plus rien à faire. Il étouffait, vomissait et pleurait en même temps au milieu de la place Péberlan, jusqu'à ce qu'un gilet jaune l'attrape lui aussi par les épaules, le mette à l'écart, lui demande ce qui se passe, et lorsqu'il lui explique, le gars lui dit « cours à l'hôpital, dépêche-toi ». Donc là, il appelle ma tante pour lui dire ce qui s'est passé, et ma tante le conduit à l'hôpital, il fonce me retrouver. Entre-temps, moi, j'avais appelé une deuxième personne, c'était ma mère. Ma mère qui est réellement en état de choc hein, complet. Mais qui dit qu'elle arrive tout de suite. Je crois qu'elle a mis 1h30 pour venir de Bayonne jusqu'à Bordeaux. Après l'avoir appelé, ils me rendorment, donc toujours avec un masque et tout ça, et me font passer sur la table de billard, sur laquelle je passe 2-3 heures, où je suis amputé. Les chirurgiens ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour conserver le maximum de mon bras. Donc ils ont réussi à conserver mon avant-bras en entier. Ça veut dire que j'ai été coupé au niveau du poignet. Donc je n'ai plus de main, mais les os de mon bras en lui-même sont intacts. Ils ont réussi à faire une espèce de papier cadeau avec mes chairs explosées pour recouvrir et pour fermer la plaie. Et donc je me réveille avec ça et je me réveille en présence donc, de ma famille, donc de mon frère, ma mère et ma tante, qui savent pas quoi dire. La première chose que je fais quand je me réveille, j'ai mon nez qui me gratte. Et j'essaie de me gratter. Sauf que mon bras avait été endormi. En fait, j'avais une perfusion au niveau du coude qui endormissait tout mon avant-bras, qui fait que je ne pouvais pas contrôler mon articulation. Donc lorsque je lève mon bras pour me gratter le nez, avec ma main droite, par réflexe, je me prends mon moignon dans la gueule. Ce qui me fait beaucoup rire à ce moment-là. Et ça a été le moment où je me suis rendu compte qu'en fait, l'humour permet quand même de beaucoup supporter en fait, le traumatisme, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai aucun problème. D'ailleurs, je travaille en ce moment sur un one man show assez cool. C'est le lendemain que Libération, le premier journal, demande à m'interviewer. Donc là, j'accepte effectivement tout de suite. Alors entre-temps, je m'étais quand même un peu renseigné sur qu'est-ce qui s'était passé, comment je pouvais avoir perdu ma main simplement en allant en manifestation. Donc j'apprends l'existence de la GLI F4, de la GMD, du fait que je ne suis pas le premier, je suis le cinquième. Enfin voilà, je prends connaissance de tout ça grâce à l'ordinateur que m'avait apporté ma mère. Je fais des recherches. Donc Libération, j'avais pas encore décidé de montrer mon visage et de donner mon nom. Je préfère rester anonyme. Donc ils font ça, ils disent que mon prénom, ils prennent une photo de moi de dos. Et déjà à ce moment-là, il y a des rumeurs qui commencent à courir sur Facebook à me demander si c'est bien moi et tout ça. Donc je décide de mettre un post sur Facebook pour expliciter et pour dire oui, c'est bien moi que vous avez vu la vidéo. En train de hurler, j'ai perdu ma main, donc voilà. Je les rassure quand même sur le fait que je suis encore en vie, que je vais bien. Et je m'en rends pas encore compte à ce moment-là, mais pendant ce temps, la vidéo où on me voit hurler la main en sang fait le buzz. Elle fait le tour de France, voire même le tour du monde. Ce qui explique en grande partie la médiatisation derrière que j'ai pu avoir. Le lendemain, c'est France 2 qui demande à me voir pour passer. Je suis encore à l'hôpital à ce moment-là, en convalescence. Donc France 2 vient me voir aussi à l'hôpital pour passer sur complément d'enquête et eux préfèrent ne pas laisser l'anonymat. C'est leur politique, effectivement, ils me disent on peut le faire, mais on vous conseillerait de ne pas le faire, ça aurait plus d'impact. Et ça a été le moment où j'ai décidé en fait de réellement entrer réellement en combat contre ces armes et contre ces grenades. C'est le moment où je me suis décidé, ok, si je le fais à fond. Ça veut dire accepter toutes les interviews, ça veut dire faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir lutter contre ça. toujours à l'hôpital, j'y suis resté 5 jours. Je reçois énormément de messages de soutien de mes amis Facebook, de gens que je ne connais pas aussi, beaucoup. Et je reçois aussi des demandes de journalistes et tout ça. Et parmi toutes les demandes, j'ai cette personne. Cette personne me dit que je ne suis pas tout seul, qu'il y a d'autres gens qui sont comme moi, et qu'il essaye de les rassembler pour monter un collectif pour lutter contre ces armes. Cette personne s'appelle Robin Pagès. Il a eu son pied bousillé par une GF4 lors de la ZAD de Bure, en fait, il y a 1 an et demi. Il était venu pour manifester aussi et pour défendre la zone à défendre, quoi. Et donc, il y a eu une grenade GF4 qui a atterri directement sur son pied, en sachant qu'à ce moment-là, il portait des chaussures quand même de sécurité, donc des chaussures assez solides, dont on peut voir, on peut trouver une photo sur Internet, où on la voit complètement explosée. Il a un trou béant sur le dessus du pied, qui non seulement il n'arrive pas à le refermer, mais toutes les greffes qu'on a essayé de faire pour le soigner sont rejetées et ne fonctionnent pas. Donc aujourd'hui encore, il ne peut pas marcher sans béquille ou sans fauteuil roulant. Moi, je remercie Robin quand même pour son implication, parce que ce qu'il faut savoir sur Robin, c'est que lorsque lui, ça lui est arrivé, personne n'en a parlé. Il y a eu un véritable silence médiatique au point où il pensait que ça n'intéressait personne. Et lorsqu'il a vu qu'effectivement d'autres personnes perdaient leurs membres en série avec les gilets jaunes, il s'est décidé à bouger et c'est probablement le plus motivé, puisqu'il a passé 1 an et demi à ronger son frein en subissant l'injustice d'être ignoré en fait par les médias et d'être ignoré par les gens, quoi, enfin, de façon générale. Et donc on a monté ce collectif qui s'appelle Les Mutilés, par exemple. Alors au début, on n'était que 4 ou 5, et petit à petit, on s'est développé, et aujourd'hui, on est presque une vingtaine, en sachant qu'on n'a pas encore rassemblé tout le monde. Donc on décide de faire une première manifestation où il n'y a pas grand monde, enfin, il n'y a pas encore beaucoup de mutilés, on est peut-être une dizaine, pas plus, qui se passe pas trop mal, si ce n'est que je me suis fait agresser par... alors pas par un manifestant, mais par un mec qui s'est révélé faire partie des Zouaves. Donc les Zouaves sont le groupe d'extrême droite de fachos de Paris, qui m'explose le nez. Je pense pas qu'il se rend compte que je suis blessé, je pense juste qu'il a vu un gars avec un perfecto en cuir et des cheveux roses et qui se dit « lui c'est un gaucho, je vais me le faire ». Donc sur le moment, je quitte la manifestation parce que j'ai le nez en sang, que ça n'arrête pas de couler et que je suis pas en état de faire la manifestation. Mais en soi, la manifestation se passe bien, enfin... quelques problèmes d'organisation, on en a encore, on n'est pas encore des experts de l'organisation de manifestations. Donc après, on se fait un week-end où on a encore plus de mutilés, où on a vraiment le temps, où là c'est une rencontre, c'est pas un événement médiatique et tout ça, c'est une rencontre intime entre personnes mutilées, où je rencontre des gens qui ont perdu leurs yeux, une autre personne qui a perdu sa main, des gens qui ont reçu des LBD dans la tête, donc qui n'ont pas perdu leur œil, mais qui ont des conséquences assez graves sur leur cerveau. Et c'est une rencontre qui est particulièrement intense en termes d'émotions, où on découvre des gens qui ont vécu des choses similaires à ce que vous avez vécu et qui sont autant en souffrance que vous. Et cette rencontre nous fait énormément de bien. Elle nous permet de nous soutenir les uns les autres. Et c'est là où on décide réellement de monter ce collectif dans la forme dans laquelle il est aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas un combat vain. Ne serait-ce que pour le cas de Léo. Léo qui a eu sa main carbonisée en fait, par une GF4, mais qui n'a pas été amputée, qui a gardé sa main. Donc sa main a été brûlée au 3e degré hein, par cette grenade. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui aussi a eu ce mauvais réflexe en fait, de la ramasser. Mais au dernier moment, il s'est souvenu de mon histoire et de celle de mes prédécesseurs et a retiré sa main au dernier moment. Ce qui fait que lors de l'explosion... sa main a juste été brûlée. Alors lui s'en sort avec donc des brûlures qui lui font mal, hein, qui le contraint à rester sous morphine au point où ça le rend malade. Donc c'est pas évident pour lui. Mais je me dis si au moins le fait d'avoir parlé avec les médias a permis à quelqu'un de ne pas perdre sa main, déjà pour moi j'estime que ça valait le coup. Et c'est pour ça que je continue à faire ce que je fais. Parce qu'effectivement, au-delà de la dénonciation, il s'agit aussi d'informer les gens. Pendant longtemps, la GF4, le LBD40, même s'il était connu, on ne connaissait pas sa dangerosité et le fait qu'il pouvait crever des yeux. Tout ça, les gens n'en parlaient pas trop, personne n'était vraiment au courant. Enfin voilà, c'était mis un peu sous le tapis, quoi. Donc nous, notre objectif, ça a été de faire en sorte de le sortir de sous le tapis et de le mettre bien au grand jour devant tout le monde. c'est l'interdiction complète et définitive du LBD 40, de la GLI F4 et de la GMD. Mon combat personnel, c'est un changement radical dans la police de façon générale, dans la façon dont est utilisée la police. Je pense que c'est un combat qui ne va pas être gagné tout de suite, si tant est qu'il est gagné un jour, mais c'est un combat que je n'abandonnerai pas, parce que la violence policière est quelque chose qui m'a marqué, qui fait partie de moi, que je ne pourrai jamais enlever, qui définira probablement toutes mes actions futures. Ils ont créé effectivement un manifestant qui ne les lâchera pas. Et je pense que c'est aussi le cas pour tous mes autres camarades mutilés. Et nous, on lâchera rien. Tant qu'on n'aura pas eu gain de cause, tant qu'on ne nous aura pas rendu justice, et tant qu'on ne sera pas sûr qu'effectivement d'autres personnes pourront aller manifester sans avoir peur de perdre une main ou un œil, ou autre chose. On a porté plainte avec mon avocat, Maître Jean-François Blanco, donc qui a accepté de me défendre gratuitement. Lui, son but, c'est l'interdiction des grenades. Et qui m'a conseillé de porter plainte, pas contre le policier, pas contre X, mais contre M. Castaner et M. Lallemand. M. Lallemand, préfet de Bordeaux à l'époque où j'ai perdu ma main, qui a été récemment promu à Paris, comme préfet de Paris, en fait, et qui est connu pour être un préfet ayant une doctrine particulièrement répressive. Nous considérons qu'effectivement, cette violence, elle est illégitime et injuste, disproportionnée et absolument pas nécessaire. Ma plainte, donc, leur était adressée pour mutilation volontaire. Parce qu'avec mon avocat, on estime que cette fameuse décision d'arrêter d'acheter des Gli F4, mais de continuer à les utiliser tant qu'il en restait des stocks, est une décision catastrophique pour la sécurité des gens, qui a entraîné ma blessure et celle de beaucoup d'autres avant moi et après moi. Donc pour nous, c'est un acte volontaire, motivé par des raisons économiques, qui aujourd'hui a entraîné des amputations de personnes. On considère que c'est ce qu'on appelle une mutilation volontaire. Malheureusement, l'enquête de l'IGPN a déclaré un non-lieu. Alors, c'est pas fini. Hein. Derrière, avec mon avocat, nous avons fait appel. Notamment, on se porte partie civile et on saisit un juge d'instruction. Derrière, on va passer à un niveau supérieur. Et en vrai, on se doutait, avec mon avocat, que ça n'allait aboutir à rien. On continuera juridiquement aussi loin qu'il le faudra et on ira aux plus hautes instances s'il le faut, jusqu'à la Cour européenne s'il y a besoin. Mais clairement, on lâchera rien. Et on ne s'arrêtera pas tant que ces grenades, et le LBD aussi, ne sera pas interdit. J'ai plus de main droite, mais j'ai ce qu'on appelle le membre fantôme, ce qui fait que même si elle n'est plus là, je la sens encore. Je sens des picotements dans une main qui n'est plus là, du poignet jusqu'au bout des doigts, quoi. C'est une sensation constante, permanente, et il n'y a pas vraiment de règle pour ce qui est du membre fantôme. Il y en a où ça leur fait pas du tout mal, il y en a qui ne l'ont pas du tout. Il y en a où ça fait tellement mal qu'ils en deviennent fous. Donc, il faut s'adapter en fonction. Il y en a où ça finit par disparaître. D'autres qui ne l'ont pas pendant des années et un jour, on ne sait pas pourquoi, il apparaît. Les scientifiques comprennent assez mal comment ça fonctionne. Ils savent pourquoi ça existe, mais ils ont du mal à expliquer que ça marche différemment pour chaque personne. Ça peut être des sensations assez différentes. Par exemple, la sensation qu'on vous plante un couteau dans la paume de la main, alors que je rappelle qu'il n'y a plus de paume, hein, il n'y a plus de main. La sensation que la main brûle, la sensation que vos doigts se tordent dans des sens impossibles physiquement. Mais bon, vu qu'il n'y a pas d'articulation, ils partent un peu dans les sens qu'ils veulent, quoi. Moi, la mienne est juste paralysée pour l'instant. Aujourd'hui, elle s'est stabilisée. Mon membre fantôme s'est stabilisé. Et c'est une sensation qui n'est pas agréable, mais comme elle est tout le temps là, on s'habitue. Ça ne se guérit pas, hein. Justement, on ne sait pas comment ça marche. Mais ça peut s'atténuer par des traitements chimiques, donc des cachets, et électriques, donc des électrodes posées sur le moignon qui envoient des décharges qui permettent de calmer la douleur. Il y a ce qu'on appelle les douleurs du membre résiduel, donc du moignon, qui sont des douleurs physiques, et les douleurs fantômes, qui elles sont des douleurs neurologiques. Donc ça ne se traite pas avec la même chose. Il y en a un où c'est de la morphine et l'autre c'est du pregabaline, donc un médicament contre les douleurs neurologiques. C'est utilisé quand il y a réellement nécessité, donc quand il y a grosse douleur, quoi, ce qui n'est pas mon cas. Et en plus, il faut savoir que c'est des médicaments qui sont aussi addictifs que la morphine. Le simple fait d'arrêter provoque d'énormes douleurs fantômes. Et pour moi, la période de sevrage a été compliquée, quoi. Mais au final, je suis assez content de ne pas être constamment sous cachet. Suite à mon amputation, donc, je suis rentré au centre de rééducation de la Tour de Gassy, qui est un très très bon centre de rééducation, très connu dans toute la France. Et donc, au terme de ma rééducation, ils m'ont équipé d'une prothèse de main. Ce qu'on appelle une prothèse myoélectrique, donc une prothèse motorisée quoi, qui s'ouvre, qui se ferme, qui peut prendre différentes positions. Donc c'est le dernier modèle remboursé par la sécurité sociale. Donc il faut savoir qu'une prothèse, que ce soit une prothèse d'œil, de pied ou de main, est toujours remboursée par la sécurité sociale, quoi qu'il arrive, peu importe qu'on soit en manifestation ou pas. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que les frais médicaux ne soient pas pris en charge par une mutuelle. La mutuelle se réserve le droit, suivant les mutuelles, de ne pas vous prendre en charge si vous êtes en manifestation. Ça a été le cas, par exemple, pour Fred. Sa mutuelle a refusé de prendre en charge ses frais médicaux. Puis ensuite, vient les assurances pour tout ce qui est perte de travail et tout ça, bon, qui, là aussi, suivant l'assurance, peut décider de ne pas vous prendre en charge. Bon, moi, il se trouve que ça n'a pas été le cas ni pour la mutuelle ni pour l'assurance. Donc, au final, je m'en sors plutôt bien. Voilà, je suis pas riche non plus, hein, mais en tout cas... Ils m'ont suffisamment soutenu pour que je puisse garder la tête hors de l'eau. D'autres n'ont pas cette chance. C'est notamment pour ça qu'il y a des cagnottes qui sont mises en place. Moi, j'invite les gens à partager sur les cagnottes de ceux qui ont des vrais soucis financiers à cause de ça. Moi, il y a eu des cagnottes qui ont été montées pour moi. Je les ai refusées, personnellement. Parce que moi, j'ai ma prothèse et elle fonctionne très très bien. D'ailleurs, cette prothèse, elle fonctionne grâce à des capteurs en fait, qui ne sont pas plantés dans ma peau. Hein, ils sont juste posés sur ma peau dans une espèce de gant où je viens enfiler mon moignon. Du coup, les électrodes sont posées sur mes muscles. Et en fait, ce n'est pas les nerfs qui détectent, c'est les contractions musculaires. Et en fait, même si je n'ai plus de main au bout, ben, je peux toujours contracter mes muscles. Ces deux électrodes viennent capter mes muscles de flexion et d'extension de ma main, que je peux quand même activer malgré tout. Et c'est avec ça que je contrôle ma prothèse. Donc je peux la fermer, l'ouvrir, et en actionnant plusieurs fois, ben, je peux déclencher des positions, donc par exemple une pince de doigts, ou une pince à trois doigts, ou un signe de métal si je le souhaite. Enfin bon, ça c'est à s'adapter en fonction du patient. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne vous donne pas une prothèse comme ça. Il faut d'abord s'entraîner avec une main d'occasion, une main qui a servi à d'autres gens avant soi, pour montrer qu'on sait s'en servir, qu'on peut s'en servir et qu'on est capable de la maîtriser. Donc maintenant, ils imposent qu'on s'entraîne sur une main pendant au moins 4 semaines. Après, on passe des tests et on prouve qu'effectivement, elle nous sert et qu'on sait l'utiliser. Maintenant que c'est fait, j'ai passé ces tests. En août, là, mon prothésiste privé va pouvoir me fabriquer une prothèse définitive avec une main toute neuve. On attend toujours la confirmation de la sécurité sociale, et ça marquera bah, la fin de ma rééducation complète. Rééducation qui n'a pas été d'ailleurs que sur la prothèse. Hein. Il a fallu bien sûr réapprendre à devenir gaucher, parce que malheureusement quand j'ai ramassé cette grenade, j'étais droitier, et par effet que je l'ai ramassé de la main droite. Et derrière, ben, il m'a fallu aussi réapprendre à écrire, réapprendre à manger, à faire tout d'une seule main. On ne se rend pas compte au quotidien à quel point on utilise nos deux mains pour tout, en fait, pratiquement. Même les choses les plus anodines, ça a été beaucoup de rééducation, beaucoup de réadaptation. Comme je dis, hein, y a rien qui est devenu impossible, il y a juste trouver comment s'adapter et trouver de nouvelles techniques pour faire les choses qu'on n'arrive plus à faire. C'est un combat du quotidien, un combat que vivent toutes les personnes en situation de handicap, pas seulement les gens blessés dans les manifestations.